autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour et bienvenue à tous. Son nom ne vous dira peut-être rien. Il a pourtant révolutionné notre quotidien en élaborant en 1948 la théorie de l'information. Né en 1916 et mort en 2001, le mathématicien Claude Shannon aurait eu 100 ans cette année. Ses recherches sur la communication et le stockage des données ont ouvert la voie à des inventions majeures comme le compact disque ou le fichier MP3. Sans lui, pas d'internet ni de smartphone. Inventeur infatigable, il a aussi créé pour le plaisir des machines à jongler ou un ordinateur rudimentaire pour jouer aux échecs. Pourquoi Claude Shannon est-il méconnu ? Qu'est-ce que la théorie de l'information ? Quelles sont ses applications dans le domaine des télécommunications, de l'informatique, mais aussi en biologie, en économie ou en sciences sociales ? Pourquoi son article de 1948 intitulé « Une théorie mathématique de la communication est-il un coup de génie ? » Qu'est-ce que le paradigme de Shannon ? Quel théorème mathématique a-t-il énoncé ? Autour de la question « Que devons-nous à Claude Shannon ?» la réalisation est signé Pierre Chaffanjon.
Ses découvertes ressemblent à celles d'Einstein, dans le sens où Einstein était le seul à penser à certaines choses. Soudain, il trouvait non seulement la question, mais aussi la réponse, comme l'équation E égale MC2, qui a ensuite initié toutes les recherches sur l'énergie atomique. Shannon a mis au point sa formule sur la transmission de l'information. Il a déterminé combien de bits par seconde on est capable d'émettre en fonction du média. Beaucoup de gens ne se posaient pas cette question. Et lui a apporté une réponse. Et ce qui est beau, c'est qu'il a inspiré des gens qui ont fini par concevoir les téléphones portables ou les liens de communication qui ont fini par composer l'Internet.
La voix de David Neuhoff, il est professeur à l'Université du Michigan. C'est un extrait d'un documentaire réalisé par l'Université de Californie, un documentaire qu'on peut trouver en accès libre sur Internet. Citons aussi un excellent site Internet réalisé très récemment par le CNRS. Nous avons mis le lien sur la page de l'émission. Bonjour Jean-Paul Delahaye.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille, le Cristal. Bonjour Olivier Rioul.
Bonjour Sophie Joubert.
Vous êtes professeur à Paris Tech Télécom et à l'École Polytechnique. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Théorie de l'information et codage. Merci à tous les deux d'être avec nous pour parler de Claude Shannon. Alors, une question toute simple. En France, quand on prononce le nom de Claude Shannon, personne ne le connaît. Pourquoi, Olivier Rioul ?
Ouais, c'est une constatation, effectivement. Moi, c'est pas qu'en France, hein. Il m'est arrivé de faire des interventions comme ça au Brésil et demander un peu qui connaît Claude Shannon. Personne ne répond. Mais en revanche, Turing, on le connaît beaucoup mieux, par exemple.
Alors, parce que sa vie est plus romanesque ?
Alors, sa vie est beaucoup plus tragique. La vie de Turing est beaucoup plus tragique. C'était quelqu'un qui a connu des déboires avec la justice britannique à cause de son homosexualité, qui a fini par se suicider dans des conditions tragiques, etc. Alors qu'en comparaison, la vie de Shannon, elle était tout à fait tranquille. C'était un homme plutôt modeste et surtout très ludique.
Voilà, parce qu'il y a cette double casquette, mathématicien, ingénieur et aussi inventeur qui invente des machines un peu farfelues simplement pour le plaisir. Alors, on va poser quelques éléments biographiques. Il naît en 1916 à Gaylord dans le Michigan, c'est un bon élève. Il est déjà bricoleur, son père est juge, sa mère est directrice de lycée. Et donc, il étudie les mathématiques et l'ingénierie électrique. Et puis, en 1936, il va intégrer le MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology. Et il va faire son mémoire de master sur l'algèbre booléenne. Alors là, ça commence à devenir intéressant, Jean-Paul Delahaye. De quoi s'agit-il ?
Oui, à cette époque-là, on concevait des machines à calculer, donc on l'appelait peut-être pas ça ordinateur, à base de relais. Donc en fait, ce sont simplement des interrupteurs qui fonctionnent avec un électroaimant, parce que les transistors n'étaient pas inventés. Mais on arrivait quand même déjà à en combiner un assez grand nombre. Et finalement, comment s'y prendre pour les combiner bien ? Est-ce qu'on peut simplifier un circuit qui fait une certaine chose ? C'était des problèmes qu'on traitait de manière empirique. On essayait des choses, et puis voilà. Et dans son mémoire, il explique que une discipline mathématique, ou un domaine mathématique qui est l'algèbre de Boole, peut servir à concevoir des circuits plus économiques, à avoir une idée, a priori, de la façon dont il faut s'y prendre. Et donc ça révolutionne un peu ce domaine. Et aujourd'hui encore, évidemment, on utilise l'algèbre de Boole pour concevoir des circuits. Alors ça s'est beaucoup développé. Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est expliquer qu'une certaine théorie mathématique qui ne servait pas à grand-chose, peut-être.
Élaboré par un mathématicien du 19e siècle.
Pouvait être utile pour concevoir des circuits. Et c'est ce que je trouve étonnant, personnellement, c'est qu'on n'ait pas trouvé ça avant lui. Mais voilà, c'est lui qui a trouvé ça.
Alors, en 1941, Shannon va être embauché comme chercheur au laboratoire Bell Télécommunications, où il va rester une bonne partie de sa vie. Enfin, il va y faire toute sa carrière. Il va aussi enseigner au MIT. Et c'est chez Bell qu'il va réaliser ses travaux pionniers dans les années 40-50. Écoutez la voix de Claude Shannon, il parle de la souris Thésée capable de retrouver son chemin dans un labyrinthe et il est à l'époque, en effet, chez Bell Télécommunications.
Bonjour, je suis Claude Shannon, mathématicien. Je vous parle depuis le laboratoire Bell. Voici Thésée, une souris mécanique contrôlée à distance. Elle peut résoudre un certain type de problème par ses propres moyens et ensuite elle peut en mémoriser la solution. En d'autres termes, elle peut tirer les leçons d'une expérience. Le problème qui lui est posé est de trouver son chemin dans un labyrinthe. Son but est de se rendre ici, dans le coin. Elle est actuellement en train d'explorer le labyrinthe et elle cherche le bon chemin, en enregistrant les informations dans sa mémoire. Puis, je peux la mettre dans n'importe quelle partie du labyrinthe déjà explorée et elle pourra aller droit au but, sans faire une seule faute d'orientation. Bien sûr, résoudre un problème et mémoriser la solution implique un certain niveau d'activité intellectuelle, quelque chose qui s'apparente à un cerveau. Une petite machine informatique sert de cerveau à Thésée. Notre souris mécanique est trop petite pour contenir une machine, même petite. Nous avons donc placé le cerveau de Thésée derrière un miroir, qui se trouve en face du labyrinthe.
Est-ce que c'est déjà de l'intelligence artificielle, Olivier Rioul ?
Oui, on peut dire que c'est un des premiers exemples d'intelligence artificielle. Alors, il y avait un mécanisme, c'était pas la souris elle-même qui trouvait son chemin dans le labyrinthe. En fait, c'était encore des relais téléphoniques qui se situaient en dessous du labyrinthe et qui étaient programmés astucieusement de manière à ce que la souris trouve son chemin, mais la souris était aimantée, en fait, finalement.
Alors qu'il est chez Bell, Claude Shannon va travailler comme cryptographe pendant la Seconde Guerre mondiale. Quels travaux va-t-il réaliser ? C'est absolument fondamental pour comprendre la suite, Jean-Paul Delahaye.
Alors il va travailler sur des problèmes de traitement du son, d'extraction d'informations. Et puis, en réfléchissant à divers problèmes, il va réussir à démontrer un résultat concernant une méthode de chiffrage qui s'appelle le code de Vernam, dont il va démontrer qu'elle est absolument robuste à toute attaque. Pourvu qu'on l'utilise bien, c'est-à-dire qu'on utilise des clés qui soient réellement aléatoires et qu'on n'utilise pas deux fois la même clé. Et ce résultat-là est fondamental. Et aujourd'hui encore, quand on veut concevoir un code et qu'on n'a pas de limitation sur la taille des clés qu'on peut transmettre, par exemple quand on utilise la mécanique quantique pour concevoir des systèmes de cryptographie, on va utiliser ce système de Vernam dont la sûreté est établie par Shannon. Donc c'est un résultat fondamental de cryptographie qui n'est pas extrêmement compliqué, mais voilà, c'est encore lui qui l'a trouvé, personne d'autre avant lui.
Alors on va voir comment ces travaux de cryptographie nous mènent à l'article fondamental publié en 1948. C'est vraiment la magna carta de l'âge de l'information, article intitulé « Une théorie mathématique de la communication ». On en parle juste après Saul Comme sur RFI.
Comme une voix dans l'intercom qui me dit simplement te laisser filer. Comme le début d'un mauvais sitcom où le générique à la gomme me dit simplement qu'il faut laisser filer. Comment il faut vivre aujourd'hui? Comment se compare toute une vie? Comment il faut vivre aujourd'hui avec ces cons qui nous poursuivent? J'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je sembler come to my world.
des pommes, qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme, sortir du nid pour pouvoir se laisser voler.
Soul comme sur RFI. En 1948, Claude Shannon publie son article majeur intitulé « Une théorie mathématique de la communication ». Alors de quoi s'agit-il, Olivier Rioul ? Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur ce que signifie ce mot « information » pour Claude Shannon ?
Ah, alors ça c'est quelque chose de fondamental, effectivement. Donc d'abord, cet article de 1948, il est venu comme une bombe. Ça a été vraiment la révolution. D'ailleurs, il a peut-être même surpris un certain nombre d'ingénieurs de l'époque qui n'ont pas tout de suite compris l'importance de ses travaux, tellement c'était fondamental. Voilà. Donc, il parle effectivement d'information, mais il parle surtout à l'époque de la théorie de la communication. Il y a eu un glissement ensuite et c'est devenu, tout le monde l'a appelé théorie de l'information. Et il est très modeste aussi au départ. Il dit que voilà, il va s'intéresser à un certain type d'information. Il est ingénieur, il traite des messages non pas sur l'aspect sémantique.
Pas sur le sens.
Pas sur le sens, mais uniquement sur le fait qu'un message est choisi parmi un certain ensemble de messages. Et c'est là qu'il va introduire la théorie des probabilités, les modèles probabilistes, pour représenter les messages et un certain nombre de choses, le bruit dans le canal, chose qui n'avait pas été faite avant dans ce contexte-là.
Le bruit dans le canal, il faut expliquer pourquoi. C'est-à-dire que quand on transmet un message, la vraie question, c'est d'éviter le bruit.
Voilà, donc il y a deux aspects fondamentaux dans cet article de 1948 et dans la théorie de l'information en général appliquée au problème de communication. C'était vraiment une théorie aboutie parce qu'il a vraiment résolu ces deux problèmes-là dans ce seul article en 1948. Le premier problème, c'est le problème de la compression de données, où on va utiliser le concept clé d'entropie. Le deuxième problème, c'est le problème que vous soulevez, c'est-à-dire la transmission de données dans un contexte bruité. Effectivement, quand on transmet de l'information, on va avoir du bruit dû à la transmission, dû à un certain nombre de phénomènes. Et on va devoir lutter contre ce bruit pour rendre cette transmission fiable et augmenter la qualité.
Et c'est aussi dans ce papier de 1948 qu'il définit l'unité d'information, le bit, bit pour binary digit ou chiffre numérique. Et d'ailleurs, il attribue ce terme à John Tukey, l'un de ses collègues de chez Bell Labs.
Tout à fait. Alors, c'est la première fois dans cet article qu'on utilise le terme bit, qui est bien connu aujourd'hui. Effectivement, il l'attribue à John Tukey comme l'abréviation de binary digit. Mais il va plus loin que ça parce qu'il lui attribue aussi un sens probabiliste. Et il faut distinguer deux choses, le binary digit et le binary unit. Il en fait une unité d'information binaire qui d'ailleurs a été l'appellation de ce terme-là a été normalisée récemment, il y a déjà quelques années par l'ISO. On devrait l'appeler le Shannon. Donc on devrait dire voilà, j'ai un système qui fonctionne à 3 gigas Shannon par seconde plutôt que gigabits par seconde. La plupart des gens utilisent toujours le terme bit.
Jean-Paul Delay, est-ce qu'on peut revenir sur ce terme d'entropie ? C'est un terme qui n'existait pas avant. Enfin, c'est un terme qui vient de la physique, en réalité, de la thermodynamique, et que Shannon a contribué à vulgariser.
Oui, tout à fait. Les physiciens parlent d'entropie depuis le 19e siècle. Mais alors, justement, quand Shannon utilise ce mot-là, en fait, il l'utilise dans un autre sens.
Voilà.
Alors, si j'ai bien compris, l'idée lui a été suggérée par von Neumann. D'utiliser ce mot entropie parce que je crois que c'est von Neumann disait ça parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est donc on va appeler ça entropie. Et alors ce qui est étonnant c'est que on s'est aperçu que le concept mathématique avait des analogies formelles avec le concept physique et puis aujourd'hui l'analogie et le choix du terme entropie pour l'usage qu'il en fait sur un plan mathématique semble parfaitement en correspondance avec l'usage qui en est fait en physique. Et ça, c'est une sorte de petit miracle de l'histoire des sciences, quelque chose qui est tout à fait étonnant. Et les analogies entre le concept d'entropie en physique, qui a aussi plusieurs formes, et toutes les variantes du concept d'entropie, parce qu'il y a aussi une notion d'entropie algorithmique qui a été introduite depuis, toutes ces choses-là sont liées, sur un plan général, au concept physique. Il y a une unité dans ces choses-là, et c'est un petit peu miraculeux que les deux choses se soient aussi bien retrouvées. Mmh. Ou alors c'est le génie de von Neumann qui avait compris que ces deux choses-là étaient les mêmes avant tout le monde.
Mais vous parlez de von Neumann, en réalité, Claude Shannon a rencontré tous les plus grands de l'époque dans son domaine.
Alors oui, quand on est comme moi, un peu mathématicien, logicien, informaticien, les idoles du XXe siècle, c'est Turing, c'est Gödel, c'est von Neumann. Et tous ces gens-là, effectivement, Shannon les a rencontrés. Parfois, il a même travaillé avec eux. Il a aussi rencontré Gödel et d'autres encore. Et c'est une vie extraordinaire qu'il a eue, de rencontrer tous ces gens-là et pouvoir échanger avec eux. On l'envie d'une certaine façon.
Il a par exemple rencontré Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique. C'est une influence très importante.
Oui, d'ailleurs, il remercie Wiener dans son article, ce fameux article de 1948, qui apparemment l'a profondément influencé pour un certain nombre de ses développements en théorie de l'information. Wiener, la même année, en 1948, avait publié un tome de sa cybernétique, qui est également assez révolutionnaire, où il va d'ailleurs démontrer le même type de formule de capacité de canal que Shannon. Voilà, donc il y a des liens assez forts entre Wiener et Shannon.
Mais pour qu'on comprenne bien la révolution que ça a pu représenter, il faut voir le saut qualitatif qu'a opéré Claude Shannon, parce que là, il travaille dans un laboratoire de télécom, ce qui n'est pas anodin, et donc à l'époque on se demande comment transmettre les informations et donc comment faire. Bah, c'est en faisant des fils de plus en plus longs, et lui va faire différemment.
Alors oui, alors c'est l'aspect révolutionnaire dont on va parler en relation avec un de ces théorèmes. Ce sont des théorèmes mathématiques qui ont vraiment révolutionné le monde. C'est-à-dire qu'on comprend, grâce à ces théorèmes mathématiques, pourquoi on est aujourd'hui dans un monde devenu numérique. Toute la technologie numérique qui nous entoure aujourd'hui, on ne l'aurait pas eu sans Shannon. Et je fais partie d'une grande école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Paris Tech, qui est la grande école d'ingénieurs du numérique, qui forme les ingénieurs du numérique. Tout cela n'existerait pas sans Shannon. L'idée, c'était que la transmission, plutôt que le bruit qui est présent dans la transmission, va au bout du compte pas affecter la qualité de la transmission, mais va simplement affecter le débit, c'est-à-dire la rapidité à laquelle on peut aller. Mmh. Et ça, c'est fondamental. C'est ça qui explique qu'aujourd'hui, tout est numérique.
Parce qu'il élabore un schéma qui, au fond, est extrêmement simple. C'est-à-dire on a la source, on a l'encodeur, le signal, le décodeur, le destinataire. C'est très simple.
Oui, mais c'était révolutionnaire. Parce que pour la première fois, on distingue clairement les rôles de l'émetteur, du récepteur, du bruit, du signal. Et c'est d'ailleurs ce fameux paradigme de Shannon qui est la toute première figure de l'article. Et probablement ce qui a eu le plus d'influence dans toutes les sciences. Parce que ça a été repris un peu à toutes les sauces, dans tous les domaines, y compris les domaines les plus éloignés, comme les sciences sociales, comme la linguistique, comme, la biologie. On a repris des schémas de type Shannon pour expliquer un certain nombre de concepts, y compris en interface homme-machine, etc.
Mais au fond, est-ce qu'à l'époque, Shannon a les moyens techniques de fabriquer ce qu'il élabore sur le plan théorique, Jean-Paul Delahaye ?
Oui, parce que dans les années 40, les premiers ordinateurs à relais, d'abord, existent. Enfin, l'ENIAC, par exemple, aux États-Unis. Et puis, dans les années 50, c'est l'explosion. Enfin, l'explosion des gros ordinateurs, parce qu'à cette époque-là, il n'est pas question d'ordinateurs personnels, mais c'est le développement de l'informatique. Et toutes ces notions-là vont, toutes les notions que Shannon introduit, vont effectivement jouer un rôle dans la compréhension de ce qu'on fait quand on construit ces machines et comment il faut s'y prendre pour les programmer au mieux, etc.
On va parler des applications des théories de Shannon dans un instant autour de la question que devons-nous à Claude Shannon. Jean-Paul Delahaye, Olivier Rioul, vous restez avec nous. On se retrouve. On se retrouve dans quelques instants, juste après les informations sur RFI. À tout de suite.
Autour de la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question « Que devons-nous à Claude Shannon, ingénieur et mathématicien ?» On fête cette année le centenaire de sa naissance et je renvoie au site mis en ligne par le CNRS sur la vie et l'œuvre de Shannon. Vous y avez participé, Jean-Paul Delahaye. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'article fondateur de 1948. On va essayer de l'approfondir, de voir dans quel domaine la théorie de l'information est appliquée aujourd'hui. On va prendre un premier exemple, c'est celui de la compression des images avec Erwan Le Pennec. C'est l'une des vidéos réalisé par CNRS Images pour le centenaire de Shannon.
Shannon décrit le problème de la transmission d'informations avec deux problèmes un petit peu différents. Le premier problème, c'est comment j'envoie de l'information d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'est, on peut dire, des antennes. Et puis, la deuxième idée, c'est comment je peux faire pour que le message que j'envoie, il soit le plus court possible, sans perdre de son contenu. Donc, pour décrire une image le plus facilement possible, il faut comprendre ce que ça veut dire facile. L'idée, c'est de trouver des motifs ou des choses qui sont simples dans une image. Un exemple qui vient tout de suite, c'est le cas des images de type dessin animé, dans lequel il y a beaucoup d'aplats. Et de ce fait-là, plutôt que de décrire tous les pixels, dire, là, je vais avoir 10 pixels de la même couleur, 20 pixels de la même couleur. Et ça, c'est plus court à décrire que donner toute la liste. En compression d'image, le fait que l'œil soit capable d'accepter des petits défauts permet de jouer sur la qualité. Dans la compression d'image, cette idée de compromis entre qualité et taille du fichier, c'est quelque chose qui est crucial. Et on a à peu près tous comprimé un fichier JPEG dans sa vie, ou quand on stocke sur son téléphone, on choisit un facteur de qualité. C'est cette idée-là. Est-ce que je veux quelque chose de joli, mais gros, ou quelque chose de petit, mais moins beau ?
Olivier Rioul, cet éclairage d'Erwan Le Pennec renvoie au premier théorème de Shannon. Est-ce que vous pouvez l'expliciter ?
Alors, ce que Shannon démontre dans ce théorème, il le démontre sur des modèles théoriques, qui sont moins complexes que les images dont parlait Erwan. Il s'agit de, en quelque sorte, de trouver un code qui soit le plus petit possible pour effectivement représenter toute l'information sans aucune erreur, mais de la manière la plus comprimée possible. Alors pour ce faire, il va utiliser des arguments probabilistes. Il va utiliser des arguments probabilistes et de plus asymptotiques, c'est-à-dire en faisant tendre une dimension vers l'infini. Donc c'est quelque chose où il va utiliser des théorèmes assez sophistiqués, comme la loi des grands nombres, pour démontrer que,
C'est-à-dire la loi des grands nombres ?
La loi des grands nombres, c'est un résultat asymptotique. Il se passe quand on a des événements, un grand nombre d'événements qui arrivent, et on fait des moyennes. Et ces moyennes, les fluctuations statistiques de ces moyennes tendent à s'écraser et à converger comme ça vers une limite qui s'exprime par une équation mathématique, par une espérance mathématique, donc une quantité moyennée sur une distribution de probabilité. C'est précisément l'entropie qui joue ce rôle de limite pour Shannon dans son théorème sur la compression. Donc il a été capable de démontrer qu'il y a une quantité qui est calculable théoriquement, en deçà duquel on ne peut pas aller si on veut comprimer l'information sans erreur.
C'est ce qu'on appelle la limite de Shannon ?
C'est une limite de Shannon pour la compression. Il y en a une autre pour la transmission aussi, qui fait partie du deuxième théorème de Shannon.
Donc en fait, c'est comme la vitesse de la lumière ?
Alors ça, c'est un peu l'image que je donne pour la transmission, parce que la vitesse de la lumière, c'est un peu l'idée de cette limite qu'on ne peut pas dépasser. C'est comme si Shannon, effectivement, avait inventé cette vitesse de la lumière, ou l'avait démontré mathématiquement. Mais par contre, il n'a pas dit comment construire la fusée qui permettrait de s'approcher de cette vitesse de la lumière. Et ça a été tout le problème pendant très longtemps, surtout sur les problèmes de transmission, où des ingénieurs, pendant plus d'un demi-siècle, ont cherché des codes extrêmement sophistiqués pour essayer de s'approcher le plus près possible de la limite de Shannon.
Jean-Paul Delahaye, un mot de commentaire sur ce premier théorème de Shannon et sur la compression.
Oui, alors moi je voudrais insister sur la version moderne de la théorie de l'information, enfin, ou les compléments qui ont été apportés par c'est Kolmogorov, c'est ce qu'on appelle la théorie algorithmique de l'information de Kolmogorov, où en fait on reprend un petit peu quand même certaines idées de Shannon, où on veut enlever le modèle probabiliste du signal, et où on dit la quantité minimum d'informations qu'il faut pour transmettre un message, c'est la taille du plus petit programme qui permet de représenter le message. Et là, pour le coup, on a une situation où on peut démontrer qu'effectivement, il n'y a pas de compression supérieure, puisque c'est par définition la compression optimale. Et puis, il se produit des choses assez amusantes, où il y a une interaction avec des théorèmes de logique mathématique, où on démontre, par exemple, que cette limite inférieure, donc de quantité d'informations qu'il va y avoir dans un message, elle n'est pas calculable dans l'absolu. Donc, on peut l'approcher. il y a toutes sortes de méthodes pour l'approcher. Tous les algorithmes de compression qu'on utilise, par exemple, en informatique aujourd'hui, sont des façons d'approcher cette limite inférieure de contenu en information. Mais on ne peut pas être certain, dans chaque cas, de pouvoir l'atteindre. Donc, il y a, pour le coup, un enrichissement de la théorie de l'information qui se trouve connecté avec la logique mathématique et des résultats de théorie de la calculabilité qui viennent, à ce moment-là, de Turing. Ou de Gödel. Et donc, tout se retrouve. C'est tout à fait fascinant de voir cette situation.
Voilà, et on a à peu près l'intuition, en vous écoutant parler, des applications très concrètes dans nos vies de tous les jours.
Ah oui, bien sûr. La théorie algorithmique de l'information, par exemple, permet de calculer des distances entre séquences, par exemple, entre séquences génétiques ou entre d'autres objets. Et ça permet, par exemple, de faire des classifications à partir des séquences génétiques, on reconstitue des arbres phylogénétiques. Donc c'est quelque chose de très concret. Et cette théorie a toutes sortes d'applications. Elle est utilisée aussi en psychologie, elle est utilisée en physique. Alors là, il se produit encore quelque chose d'assez amusant. C'est que pour donner une version nouvelle et plus cohérente d'un certain point de vue de la notion d'entropie en physique, on est amené à utiliser la notion de complexité de Kolmogorov, donc de la notion d'entropie algorithmique qui a été introduite par Kolmogorov. Donc tout se retrouve, la physique, la biologie, les mathématiques les plus difficiles de Gödel, etc. Tout se retrouve, c'est la grande aventure de la science du XXe siècle et qui se poursuit au XXIe siècle.
Alors le deuxième théorème de Shannon est lié à la transmission en information. On va écouter un autre éclairage, c'est celui de Claude Bérou, chercheur en informatique et en électronique, inventeur des turbocodes.
Lorsque, à la fin des années 40, Claude Shannon a démontré ses théorèmes de communication idéale, et notamment lorsqu'il a prouvé qu'il devait exister un code capable de corriger toutes les erreurs, beaucoup de laboratoires à travers le monde se sont penchés sur la question, et beaucoup de codes ont été proposés, mais personne n'arrivait à offrir des performances de correction compatibles avec la limite, la fameuse limite de Shannon. J'étais le premier à obtenir des résultats à peu près conformes au calcul de Shannon en mettant en œuvre le principe de la double correction, de la correction sur deux dimensions. Un code correcteur d'erreur classique, son boulot, c'est d'associer au message initial un synonyme qui va être composé de 0 et de 1. Le turbocode, lui, va associer au message à transmettre deux synonymes, dont la longueur totale ne doit pas dépasser celle du synonyme initial. Ce turbocode est donc construit sur deux dimensions, et il va donc y avoir deux décodeurs. Chacun ne voit qu'une partie de l'information, mais en s'échangeant leurs estimations, leurs probabilités, ils vont pouvoir converger vers une même réponse, vers un même consensus.
Et c'est là qu'intervient la fameuse comparaison avec la vitesse de la lumière, Olivier Rioul, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. En fait, le deuxième théorème de Shannon, il y a encore un autre coup de génie de Shannon pour cette démonstration. Et il y a une idée absolument incroyable qui s'appelle l'idée du codage aléatoire. Donc, pour démontrer son théorème, sa fameuse vitesse de la lumière, il va considérer l'ensemble de tous les codes possibles, l'ensemble de tous les systèmes de codage possibles, et il va en faire une moyenne. Alors ça, donc, il peut utiliser des arguments probabilistes
voilà.
Et arriver, grâce à cette loi des grands nombres et ainsi de suite, il va arriver à l'expression correcte de cette fameuse limite de Shannon, qui là, pour le coup, est une limite supérieure. Contrairement à ce qui se passait pour la compression, on avait une limite inférieure. Alors, justement, ce que Claude Bérou vient de dire, c'est que, finalement, c'était la fameuse fusée qui nécessitait d'être construite. C'est-à-dire qu'on a attendu 50 ans pour que Claude Bérou et Alain Glavieux, en 1998, trouvent pour la première fois un système de codage qui s'approche de la limite de Shannon. Et pourquoi s'approche-t-il de la limite de Shannon? Essentiellement parce qu'ils ont réussi à intégrer de manière structurée un code comme s'il était aléatoire. Il ne l'est pas, on peut le décoder, c'est le turbo-décodage, mais, et donc il devient pratique, mais en même temps il limite l'aspect aléatoire du codage et c'est ça qui le rend performant.
Mais ce qui est formidable avec Shannon, c'est qu'au fond, il a donné de la nourriture aux chercheurs pour les 50-60 années après lui, Jean-Paul Delahaye.
Oui, plus
même
que
plus,
ça.
Même plus, puisqu'on n'a pas tout décodé encore.
La théorie que j'évoquais tout à l'heure, la théorie algorithmique de l'information, elle est en plein développement et il est paru un traité sur cette théorie qui fait 800 pages. Voilà. Et puis, du côté de la théorie du signal continu, il y a aussi des traités aussi importants. Enfin, donc, non, il y a un travail de recherche qui continue le travail de Shannon, qui est absolument colossal. Et il n'y a pas de limite. On n'en voit pas pour l'instant, en tous les cas.
Alors, Shannon, c'est quelqu'un qui sait allier la théorie la plus pointue avec le jeu, le bricolage. Il aime inventer des machines qui, parfois, ne servent à rien. Il est aussi poète, monocycliste et jongleur passionné. Écoutez ce reportage de la télévision canadienne, Claude Shannon et ses machines à jongler.
L'élaboration de ces clowns automates en train de jongler a permis à un mathématicien, le docteur Claude Shannon, de se pencher sur la construction d'une vraie machine à jongler.
Une machine comme celle-ci donne l'illusion du jonglage. Il y a un mécanisme complexe, mais en réalité, les balles ne quittent jamais le sol. Elles sont maintenues en l'air par des ficelles camouflées. Cela m'a donné envie d'essayer de construire ma propre machine.
Les dons de jonglage ne peuvent pas être reproduits par une machine. Pour pouvoir imiter le jongleur, le docteur Shannon a dû simplifier le problème.
Quand vous faites rebondir les balles, elles sont presque stationnaires. On ne gaspille pas beaucoup d'énergie. Tout ce que vous avez à faire est de leur impulser une légère torsion, et elles vont revenir à la même hauteur. Ainsi, vous économisez beaucoup d'énergie. Un autre aspect important est que la balle bouge lentement quand on la frappe.
W.C. Fields, la machine à jongler du Dr Shannon, repose seulement sur la dynamique répétitive des lancers et des rebonds des balles pour maintenir un jonglage régulier.
Cette machine ressemble en réalité à un bon vieil automate, Jean-Paul Delahaye, enfin, en tout cas par l'aspect.
Oui, bien sûr. Parmi les autres jeux auxquels il s'est intéressé, qui est peut-être un peu plus sérieux, il y a le jeu d'échecs. Et il a construit un automate qui joue aux échecs. Les fins de partie, quand il y a un roi contre un roi et une tour, donc il a entièrement automatisé le processus de jeu pour que celui qui possède le roi et la tour gagne. Parmi les autres jeux auxquels il s'est intéressé, il y a un jeu un petit peu étrange auquel on joue pas, c'est le jeu père-impair, où ça représente c'est un petit peu le même jeu que Kifumi, sauf qu'il y a que deux options.
Pierre-feuille-ciseau.
Pierre-feuille-ciseau. Et il a conçu un programme qui tient en une demi-page, qui bat les humains. Parce que ce programme arrive à surprendre les humains, sauf si les humains jouent la stratégie qui est optimale à ce jeu-là, c'est-à-dire vraiment aléatoirement jouer un demi, pour pair ou impair. Mais les humains ne jouent pas cette stratégie-là, et du coup, ils perdent contre sa machine. Donc, ils ne perdent pas de beaucoup, ça va être du genre 52% contre 48% de bonnes réponses. Mais voilà, il a conçu ça, et c'est assez fascinant. Tout à l'heure, on a parlé du robot qui se déplace dans un labyrinthe.
Thésée.
Voilà. Mmh. Et puis alors, il a aussi inventé et mis au point un système qui permet d'aller dans les casinos, de mesurer la vitesse de la balle lancée à la roulette, et puis donc d'augmenter la probabilité en jouant une fois que la balle est lancée, parce que quand le croupier lance la balle, il y a un certain espace de temps pendant lequel on peut continuer à poser des mises. Et donc, en analysant les données du lancer de la balle, on dit bah, telle portion de la roulette va être plus probable que telle autre, et donc on retourne les probabilités en faveur du joueur. Bon, paraît-il, il aurait gagné de l'argent comme ça. Il aurait aussi gagné de l'argent au blackjack. Moi, je sais pas, je reste un petit peu dubitatif.
Alors, on peut citer d'autres exemples. Olivier Rioux, il a inventé la machine à résoudre le Rubik's Cube, une machine à calculer en chiffres romains. Il y a aussi la machine inutile.
Oui, voilà, c'est des exemples qui montrent que Shannon était vraiment motivé par les défis, les petits défis techniques ou scientifiques, et surtout par le jeu. Donc, alors la machine inutile, ce qu'on appelle aussi la machine ultime, c'est particulièrement frappant parce que c'est en fait, ça prend la forme dans un prototype de Shannon, prend la forme d'une petite valisette avec un moteur à l'intérieur. Alors, il y a un switch, donc on appuie
un interrupteur,
merci, on appuie dessus pour faire fonctionner la machine. Et la première chose que la machine fait, c'est qu'elle va sortir un bras comme ça et elle va s'éteindre elle-même. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on l'allume, la machine s'éteint elle-même. C'est ça, la machine inutile de Shannon. Il paraît qu'il possédait un prototype qu'il mettait sur son bureau au MIT.
Autour de la question, que devons-nous à Claude Shannon ? Nous allons voir dans un instant comment la théorie de l'information peut s'appliquer à d'autres domaines que les télécommunications ou l'informatique. Ça va vraiment très, très loin. C'est très, très large. On en parle juste après Siska, Unconditional Rebel sur RFI.
For sure, give me your hand. You are my future.
Siska, Unconditional Rebel sur RFI. Alors, on a vu comment la théorie de l'information pouvait s'appliquer aux machines. Elle a eu aussi des retombées dans d'autres domaines scientifiques. On s'y est aussi intéressé dans les domaines des sciences sociales, des sciences cognitives et en biologie. Écoutez d'abord un éclairage du sociologue Edgar Morin, Biologie et théorie de l'information. C'était sur France Culture en 1976.
Je pense que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette grande découverte qui part des travaux de Watson, Crick, et qui continue avec ceux de Monod-Jacob et qui continue encore aujourd'hui, c'est qu'en rattachant la biologie à la chimie, ils ont en fait rattaché la vie à la théorie de l'information et à la cybernétique. Parce que pour comprendre la vie, on fait comme si les gènes constituaient un message, comme si ce message était codé à la façon d'un langage, comme si ce message lui-même se reproduisait, se transmettait de génération en génération, et comme si c'était une sorte de programme qui dicte tous les actes de la machine vivante que nous sommes.
Olivier Rioul, Jean-Paul Delahaye, Claude Shannon a fait sa thèse sur la génétique.
Oui, alors ça, c'est une œuvre qu'on connaît beaucoup moins, curieusement. On connaît beaucoup mieux son mémoire de master, mais sa thèse a été faite effectivement sur la génétique des populations. Mais c'était avant l'ADN, et donc ça a eu un impact assez limité. En plus, il l'a soutenu juste au moment du début de la guerre, et je pense que pour un certain nombre de raisons, ça ne s'est pas propagé. Mais les spécialistes de biologie, dont je ne suis pas, s'accordent à penser que dans cette thèse, on retrouve des choses remarquables qui ont été redécouvertes par la suite.
Jean-Paul Delahaye.
Oui, alors moi personnellement, je ne connais pas bien les travaux de Shannon de cette époque-là. Par contre, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que la théorie de l'information, aujourd'hui, elle est utile en biologie pour comprendre effectivement le fonctionnement du génome, ou aussi, c'est ce que j'évoquais déjà, pour calculer des arbres phylogénétiques, on utilise des concepts de théorie de l'information, plus ou moins, mais c'est effectivement quelque chose qui surgit encore, existe encore aujourd'hui en biologie. Je pense que quand même il y a eu une sorte de mode à une époque dans les années 70, 60, 70 de mentionner la théorie de l'information en biologie alors qu'en fait, ça n'avait pas beaucoup d'impact très, très concret dans ce qui était produit. Et ça, ça a un petit peu déconsidéré la théorie de l'information sous cette forme des années 70, aux yeux des biologistes, qui après ont été méfiants. Et aujourd'hui, ils sont un peu méfiants vis-à-vis de la théorie de l'information.
Alors, dans quels autres champs disciplinaires s'applique cette théorie de l'information ? C'est très large, hein. Ça va des sciences sociales, au cours de la bourse, au fond, Olivier Rioux.
Oui, il y a un premier domaine d'application qui est connu, c'est celui de l'investissement boursier, disons, de ce qu'on appelle portfolio theory, donc la théorie du portefeuille. Qui a été développé directement sur les travaux de Shannon, en fait. Hein. Donc voilà, donc là, il y a une optimisation qui a un lien aussi avec la théorie de la complexité de Kolmogorov. Et effectivement, c'est ce qui aurait permis à Shannon de gagner de l'argent. Maintenant, on n'en sait pas plus. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé. Il y a un autre aspect qui s'est développé, c'est un aspect sur les interactions homme-machine, qu'on connaît beaucoup moins, mais il y a une règle, une loi empirique, en fait, de mesure de l'humain sur des tâches de pointage rapide, qui s'appelle la loi de Fitch et qui est extrêmement populaire et a été appliquée avec succès à de nombreux logiciels, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, etc., sur tablettes, souris et compagnie, et qui est directement inspirée de la formule de capacité de Shannon, qui est une formule célèbre dont on n'avait pas encore parlé, qui exprime la fameuse formule de la capacité de transmission d'un canal bruité, où on va comprendre que c'est proportionnel à la largeur de bande et que c'est logarithmiquement proportionnel, disons, au rapport signal à bruit présent dans le canal. Ces notions-là vont se retrouver dans l'interaction aux machines. C'est assez surprenant.
Et dans le domaine de la sécurité ?
Alors dans le domaine de la sécurité, eh bien, il y a évidemment la cryptographie, hein, où Shannon a directement contribué. Mais on a aussi maintenant développé des outils de théorie de l'information pour d'autres aspects de cybersécurité, comme par exemple les attaques par canaux cachés. Alors ce sont des attaques physiques où on va directement utiliser une sonde pour mesurer le signal sur un processeur, par exemple, et en déduire par des analyses statistiques la clé secrète qui est utilisée dans l'algorithme de chiffrement qui est en train d'être exécuté. Alors ce type d'attaque, hein, ce sont des attaques assez sérieuses parce qu'elles mettent en cause beaucoup d'objets connectés actuellement dans le monde de plus en plus connecté dans lequel nous vivons, eh bien peuvent s'expliquer et peuvent aussi se protéger grâce aux outils de la théorie de l'information. C'est ce qu'on est en train de développer actuellement à Télécom Paritech avec une équipe de gens qui s'occupent de cryptologie, avec Sylvain Guillet en particulier.
Jean-Paul Duhallet, quels autres exemples peut-on citer ?
Aujourd'hui, quand on parle de messages et de clés, on parle d'entropie, des clés, pour justement... Un exemple très, très simple, c'est que quand on considère un système de chiffrage, on va utiliser des clés. Et ces clés vont avoir une longueur plus ou moins longue. Mais parfois, l'espace des clés va être réduit pour... Toutes les clés envisageables sur un plan simplement arithmétique, de combinatoire, ne sont pas possibles. Et donc, il va y avoir une sorte de réduction de l'espace des clés. Et pour mesurer finalement quelle est la véritable largeur de l'espace des clés, on va utiliser une notion d'entropie qui permet donc d'évaluer la sécurité du système en question. Et donc, c'est des concepts de base, on va dire, en cryptologie.
Est-ce que ça peut marcher aussi dans des domaines comme la linguistique ou la psychologie ?
Oui, alors je reprends l'exemple des clés. Quand on vous demande un mot de passe, par exemple, oui. On vous dit n'utilisez pas que des minuscules, utilisez des minuscules et des majuscules, etc. Mais justement, c'est pour accroître l'entropie de la clé, enfin du message que vous créez. Donc, c'est, de manière implicite, c'est l'entropie de Shannon qui est présente dans cette exigence pour concevoir ces mots de passe.
Pour quelle raison Claude Shannon n'a pas obtenu la reconnaissance académique qu'il méritait ? Enfin, il n'a pas eu le prix Nobel, par exemple ? Il a eu le prix Kyoto, je crois, qui est une espèce de miroir du prix Nobel dans les années 80.
Importants.
Il a eu des prix importants, mais il n'a pas eu celui-là, alors qu'il l'aurait mérité, au fond.
Enfin, le problème, c'est que c'est un mathématicien, donc déjà, il n'y a pas de prix Nobel pour les mathématiciens. Alors après, il aurait eu le prix Nobel de quoi ? Je ne sais pas. Mais effectivement, il n'est pas considéré, il n'était pas considéré, je dirais, dans la communauté des mathématiciens comme un mathématicien pur non plus. Donc à l'époque, il n'aura pas été accessible non plus pour le, la médaphile n'aurait pas été accessible. Mais et par contre, on peut dire qu'il est il est le premier récipiendaire, c'est ça qu'on dit, du prix Shannon. Alors, c'est le premier à avoir reçu le prix
Shannon.
C'est la
moindre des choses.
Et le prix Shannon est actuellement la récompense la plus importante en théorie de l'information décernée par la société I3E de théorie de l'information.
Ouais. Un mot de la fin de sa vie, il est mort de la maladie d'Alzheimer.
Oui, il a effectivement, il a commencé à avoir des troubles de la mémoire assez tôt, en fait, je pense vers 70 ans à peu près, et puis, il a fini par s'éteindre en 2001, je pense à l'âge de 86 ans. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Je renvoie donc au site du CNRS réalisé pour le centenaire de la naissance de Claude Shannon. Le lien figure sur notre page internet. Je renvoie également aux vidéos mises en ligne par CNRS Images. On vous y voit Jean-Paul Delahaye. Merci à vous. Merci Olivier Rioul. Citons aussi l'exposition Shannon, le magicien des codes, qu'on peut voir au musée du CNAM jusqu'au 12 mars. Merci à Pierre Chaffonjon pour la réalisation et à Véronique Jolivet pour les archives de l'INA. À vendredi prochain.